Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sophia. Je vous propose d'écouter une interview qui fait écho à ce thème des médias et des résistances, présentée par les élèves du collège Marcel Aymard. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Ce 25 avril 2025, en Italie, a été célébré le 80e anniversaire de la libération du nazifascisme de 1945. La libération de l'Italie a pu s'accomplir grâce au mouvement de la Resistenza, la résistance. Les unités de résistantes et résistants, appelées partigiani, se sont activées dans tout le pays dès l'armistice de 1943. Cachés dans les montagnes, ils et elles se sont engagés dans une véritable guerre civile, comme la définissent les historiens de la Resistenza, pour lutter contre l'oppresseur nazi sur le sol italien. Ce qui a donné corps et force à ce mouvement, c'était la possibilité de s'organiser et d'avoir ses propres institutions ou contre-institutions, comme des points de ralliement, des approvisionnements clandestins en nourriture et armes, et aussi un média, en l'occurrence une radio. Il s'agit de Radio Libertà, une radio pirate qui a émis pendant 2 mois, 1 heure tous les soirs, entre 1944 et 1945, depuis les collines piémontaises près de Biella. Filippo Ortona, journaliste, a réalisé un documentaire sonore en 5 épisodes sur cette radio pirate. Son documentaire s'appelle Una voce nella notte, storia di una radio partigiana, une voix dans la nuit, histoire d'une radio résistante. Et a été diffusé en avril 2022 sur Radio 3 dans l'émission Tre Soldi.
Nella cantina di mio padre, a Torino, ho trovato una cartellina di documenti di mio nonno Silvio, comandante partigiano nel Biellese. Sono una manciata di fogli ingialliti, battuti a macchina. I bordi sono slabbrati dal tempo, la carta è fragile, quasi trasparente. Ce ne sono una serie e cominciano tutti più o meno così.
State ascoltando Radio Libertà, libera voce dei volontari della libertà. Le nostre parole giungeranno, valicando pianure e montagne, a tutti i compagni patrioti della Liguria, della Toscana, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e del Veneto. A tutti coloro che combattono per la nostra stessa causa.
J'ai eu envie de l'interviewer pour qu'il nous raconte cette histoire qui fait écho à la résistance qui s'impose aujourd'hui contre d'autres formes d'oppression aux racines fascistes de l'Italie à la France. J'ai pu rencontrer Filippo à Paris où il vit et travaille comme journaliste indépendant pour des médias français et italiens. Filippo, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
Bonjour, moi c'est Filippo Ortone, je suis journaliste. Je suis italien, mais je vis à Paris.
Tu as réalisé en 2022 un documentaire sonore, en 5 épisodes, qui est consacré à Radio Libertà, une radio pirate qui a émis pendant 2 mois jusqu'au printemps 1945 depuis les collines piémontaises, près de Biella. Et c'était la seule radio faite par les résistants italiens, les résistants contre le nazifascisme. Tu as réalisé ce documentaire suite à la découverte dans ta cave de feuilles contenant des conducteurs d'émissions de radio qui appartenaient à ton grand-père Silvio, qui était commandant d'une unité de résistants et qui avait participé à cette radio pirate. Quel a été ton sentiment quand tu as découvert tout ça ?
Quand j'ai découvert cela, j'étais d'abord très surpris, très intéressé, parce qu'il y a comme une forme d'intuition qui se déclenche quand on découvre un truc comme ça. En plus, il faut s'imaginer, même concrètement, le truc, c'est des tas de feuilles écrites avec la machine à écrire, donc un format un peu particulier, même physiquement, c'était intéressant comment l'objet était configuré. Puis quand j'en ai parlé à mon père, la surprise a encore augmenté, parce que pour lui, c'était quelque chose qui, une histoire connue. Il était même un peu surpris que je n'ai jamais entendu parler, comme s'il était surpris qu'il ne m'en ait jamais parlé. Et donc, je dirais oui, que la surprise était les sentiments plus forts.
Comme tu le racontes dans ton documentaire, c'est le résistant Sandro Berluto qui a eu l'idée de cette radio, Radio Libertà. d'après les différentes personnes que tu as interrogées et dans les archives aussi des interviews avec Sandro et avec ton grand-père, Radio Libertà est définie comme le seul espace où les Allemands ne pouvaient pas rentrer, mais aussi comme instrument de lutte et comme média de contre-information. Toi, qu'est-ce que tu as saisi de cette histoire et comment tu pourrais la définir ?
Ça, c'est une question un peu large, mais je dirais que pour moi, ce qui découle de cette histoire, c'est que d'abord, la résistance en Italie était un fait social d'une très grande ampleur, au moins dans certaines zones géographiques, et tout particulièrement dans les vallées alpines et préalpines du nord de l'Italie. C'est-à-dire que, par exemple, tu cites Sandro Berruto. Sandro Berruto était un pharmacien, un jeune pharmacien, donc socialement un petit bourgeois. Selon les témoignages des gens qui l'ont connu, c'était quelqu'un de très sympa, mais pas du tout politisé. Et qui arrive à la résistance, justement parce qu'à ce moment-là, socialement, pour une génération des gens de son âge, c'était une des destinations qui était largement possible à ce moment-là. Le deuxième indice qui m'a fait arriver à cette conclusion, c'est que monter une radio à cette époque-là, c'était quelque chose de techniquement extrêmement difficile, dont la difficulté était bien plus grande dans un contexte de guerre et d'occupation militaire des espaces, même physiques, et occupation militaire aussi des ondes. Il y avait une autre radio concurrente fasciste à la même époque. Bref, ce qui m'a fait conclure que c'était vraiment un très grand exploit du point de vue technique, mais aussi qui montre que socialement, la résistance, c'était quelque chose qui n'était pas du tout limité à une petite classe de militaires ou de militants aguerris, mais c'était quelque chose qui socialement s'est configuré presque comme un mouvement social, sauf que dans le contexte de l'occupation militaire du nord de l'Italie à l'époque, un mouvement social s'est configuré comme une résistance armée, et qui, mais par contre comme un mouvement social, avait ses penchants d'innovation médiatique, culturelle, comme tous les mouvements sociaux. Non.
Dans ton documentaire, tu fais entendre un témoignage de ton père qui parle de ton grand-père, donc son père, et qui n'avait jamais beaucoup raconté son expérience de résistant ni de Radio Libertà. Ton père dit qu'il pense que c'était une forme d'honnêteté intellectuelle. Il ne voulait pas raconter la résistance uniquement sous le prisme de la gloire, car c'était trop facile, entre guillemets, de le penser comme un héros. Est-ce que c'est aussi une difficulté que tu as rencontrée quand tu as voulu raconter cette histoire, cette expérience de la radio ? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée, celle de ne pas la glorifier ?
Non, tous les documentaires sont une forme de glorification de cette expérience de radio, donc la question ne se pose pas. Mais je trouve intéressant comment une certaine génération, comme celle de mon grand-père, avait des grandes difficultés à se mesurer par rapport à comment la résistance avait été racontée par la suite. Je crois que cela découle d'un côté du fait que mon grand-père était un communiste presque stéréotypé dans sa façon d'être communiste, donc un effacement total du mérite personnel, une abnégation totale au parti, à la cause, etc. Et ça, c'est déjà un élément pour lequel il ne voulait pas trop peut-être mettre en avant la question de ça, mais il n'était pas non plus dans l'effacement de cette expérience. Il en a parlé, il a écrit à des journaux pour en parler, ce n'était pas quelque chose qui était caché non plus. Mais je pense que les côtés, dans les contextes de l'après-guerre italien, où la résistance est devenue le mythe fondateur transversal de l'Italie républicaine, mettre en avant aussi ces côtés violents, ou des massacres qui ont eu lieu à la fin de la résistance, ou pendant la résistance, ou des actions armées sanglantes qui ont eu lieu pendant la guerre civile. Tout cela n'était pas facile à discuter, ne faisait pas partie non plus de l'arsenal rhétorique qui était présent sur les champs politiques italiens à cette époque-là. Et c'est d'autant, selon moi, plus évident que ce n'est que via les historiens qui sont venus après, ou certains historiens comme Pavone, qui est un historien mais qui avait aussi été un résistant. Ce n'est que leur œuvre savante, qui est venue des décennies après, qui a mis en lumière les côtés guerre civile de la résistance italienne et qui a un peu démythifié cet aspect-là. Mais je pense que tout ça forme un contexte à la fois personnel et social qui seulement explique pourquoi cette génération-là de mon grand-père n'envisageait pas trop la résistance sous ces lumières-là qui peuvent nous intéresser plus à nous aujourd'hui.
Radio Libertà était aussi un média, comme on l'a dit, de contre-information, d'organisation de la lutte. Tu cites par exemple dans le documentaire l'épisode du massacre nazi contre les résistants à Salussola, où il y a eu un seul survivant, Alberto Canuto Rosa. Suite à cet épisode, Radio Libertà diffuse un appel à la grève dans toute la zone de Biella, qui à l'époque était une zone importante pour l'industrie textile. Et le lendemain, donc, les ouvrières et ouvriers se mettent en grève massivement. Voici le texte de l'appel à la grève, diffusé sur Radio Libertà en mars 1945, suite au massacre de Salussola. Un texte lu ici par Jacopo Di Nuzzo sur la base des feuilles des émissions radio que Filippo a retrouvées et qu'il a intégrées dans le documentaire.
Biellesi, un nuovo crimine d'inaudita violenza è stato commesso in questi giorni dai nazifascisti. 20 partigiani sono stati barbaramente massacrati a Salussola. Biellesi, operai, lavoratori tutti, scioperate. Nel giorno stabilito, scioperate, perché il nemico sappia che una sola è la voce del popolo italiano.
Et cet épisode nous montre un peu la puissance de qu'avait ce média. Si on le transpose aujourd'hui dans un contexte très différent, est-ce que tu penses, vu que tu travailles dans les médias, que les médias peuvent encore avoir cette puissance-là?
Ouais, sans doute. Après, ça dépend de ce qu'on entend par médias, dans le sens où, à cette époque-là, carrément, il n'y avait pas d'autres canaux qui pouvaient être aussi aisément autogérés, intermédiatiques, comme peuvent l'être aujourd'hui une page Instagram ou des pages Facebook. Mais si on pense par exemple au Gilet jaune, c'est le premier exemple qui, comme ça, vraiment, comme ça, sans trop y réfléchir, me vient à l'esprit. Mais l'exemple du Gilet jaune, pour moi, c'est vraiment... C'est presque didactique de comment des pages Facebook autogérées, c'est-à-dire des médias autogérés, peuvent construire un contexte de mobilisation extrêmement vaste et extrêmement déterminé et jouer ces rôles des roues de transmission de tout un parcours de mobilisation. Donc je pense que ce rôle, il existe toujours. C'est juste que, bien sûr, techniquement, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et surtout, on n'est pas du tout dans un contexte d'occupation militaire nazi-fasciste.
Et justement, en parlant des Gilets jaunes, quand on pense à l'écho de la résistance italienne en France, on pense aussi au chant Bella Ciao, qui a été traduite et adaptée dans une multitude de versions et de langues différentes à travers le monde. En France, on a entendu Bella Ciao chanter lors du concert de soutien au journal Charlie Hebdo après les attentats de 2015, mais aussi pendant le mouvement Nuit Debout. Et j'ai trouvé une étude de la linguiste Laurel Lassini qui écrit « Le chant des partisans retrouve ainsi une motivation inattendue au début du nouveau millénaire où les consciences sont à fleur de peau. Il accompagne désormais toutes les frondes et tous les combats sociaux de la marche pour le climat au gilet jaune que tu viens de citer. » D'après ton expérience d'Italien en France, Bella Ciao ou d'autres chants contribuent un peu à la transmission de l'histoire de la résistance italienne en France?
Oui, sans doute. Après, je me demande combien c'est dû à l'histoire de la résistance italienne et combien à son utilisation dans la série espagnole de La Casa de Papel. C'est une vraie question. Mais du coup, je trouve quand même, enfin, ça enlève rien à la puissance de l'imagine construite par la résistance italienne. Mais en vérité, j'aime bien cette circulation pop qui en a découlé.
Una mattina mi son svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao.
La résistance italienne a tellement un imaginaire fort que c'est d'ailleurs l'une des premières choses que transportent avec eux les gens qui vivent à Paris et qui viennent d'Italie.
Aujourd'hui, il y a des alliances qui se tissent entre France et Italie, notamment en ce qui concerne les luttes sociales et les luttes contre la destruction du vivant. Je pense par exemple au mouvement contre la TAV, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, mais aussi à la traversée des luttes pour l'eau qui a été lancée à l'été dernier, en juillet 2024, par le mouvement des soulèvements de la terre et Bassine No Merci. Donc une délégation est arrivée du Marais Poitevin jusqu'à Venise en tissant des liens avec tous les collectifs en lutte sur le chemin entre France et Italie. Aujourd'hui, il y a une menace en France de l'extrême droite et d'un gouvernement d'extrême droite, chose qui est déjà advenue en Italie en 2022. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de résistance entre France et Italie qui est en train de se construire, d'après aussi ton expérience de journaliste où tu suis un peu les mouvements sociaux d'un côté et de l'autre de la frontière?
Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, honnêtement. Du coup, je n'avais pas trop répondu, j'avais réfléchi sur autre chose. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé à Paris, je venais de l'issue du mouvement, d'un grand mouvement étudiant qui s'était déployé entre 2008 et 2011 en Italie. Et j'avais l'impression qu'en France, il n'y avait pas grand-chose qui s'est joué. Et c'était pas très vivant au niveau des mouvements sociaux, de l'élaboration, de l'activité politique en dehors de partis et des syndicats. Par contre, au tournant de l'année 2015-2016, il y a eu les mouvements de la loi travail, puis il y a eu... Puis il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le soulèvement de la terre, il y a eu toute la décennie sur des mouvements contre la violence policière, le racisme, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont jouées en France. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours une relation un peu bizarre entre France et Italie. Dans les années 70, on avait l'habitude de dire qu'on réfléchissait la théorie en France et on la pratiquait en Italie. Parce qu'en Italie, il y avait la longue décennie de 68-77 qui était une explosion d'énergie militante, tandis qu'en France, c'était déjà un peu passé, mais quand même, il y avait toute une explosion théorique, par contre, qui n'y avait pas en Italie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, on est un peu à l'avant-garde des mouvements sociaux qui ont été un peu battus en Italie. Mais c'est vrai que, par exemple, ce que j'ai expérimenté, moi, quand je faisais les mouvements Notav en Italie, et avant, dans les années 2008-2015, comme ça, c'est vrai que beaucoup des choses après, je les ai retrouvées un peu en suivant les mouvements, les soulèvements de la terre. Donc oui, sans doute, il y a des formes de transmission, et il y a un lexique commun qui s'est bâti autour, par exemple, de la lutte contre les grandes œuvres imposées. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Mais je pense que, par exemple, sur les Gilets jaunes, on aurait pu mieux faire à faire passer l'expérience des Gilets jaunes et son sens en Italie. Je pense que ça, c'est une chose qu'on n'a pas trop réussi et c'est dommage. Mais là, par exemple, je vois que tous les mouvements, quand il y a eu le meurtre de Naël en 2023, il y a eu un énorme mouvement social qui a enveloppé les périphéries des grandes villes françaises. En Italie, ça a été très, très, très suivi. Parce que aussi en Italie, on commence à avoir une population de jeunes racisés qui sont au niveau de la citoyenneté encore plus discriminés qu'en France parce qu'ils n'ont pas accès à la nationalité. Et par exemple, quand Rami El Gamel a été tué par une voiture de police en novembre, il y a eu une explosion semblable à Milan. Et là aussi, je revois des liens tissés entre expériences similaires mais différentes, mais plutôt dans le sens où on essaie d'apprendre de l'expérience française pour voir comment on peut faire bouger les choses aussi en Italie.
Dans ton documentaire, il y a une voix qui nous relie à un bout d'une émission de Radio Libertà, diffusée après le massacre de Salusola dont on a parlé. Je la cite traduite en français. « De telles explosions de brutalité nous rappellent, s'il y en a encore besoin, que celui du monstre fasciste n'est ni un mythe ni une figure de style, c'est la réalité, l'atroce réalité avec laquelle nous devons nous confronter. » Quand j'ai re-entendu ces mots, ils sonnent vraiment d'actualité aujourd'hui. Toi, comment ça résonne pour toi ?
Sans doute, ça résonne d'actualité, malheureusement. Il y a aussi une question qui, en fait, pour moi, l'actualité est la plus préoccupante parmi toutes les choses. C'est qu'en Italie, on est habitué à... je la prends un peu de loin, mais l'Italie, c'est un des pays en Europe qui tient... où le pacifisme comme concept social est le plus construit et le plus partagé au sein de la population pour plein de raisons. Il y a aussi une culture catholique qui joue là-dedans, mais aussi parce qu'en Italie, il y a un truc de conscience populaire en Italie et qui est aussi inscrit dans la Constitution, qui est que la guerre mène au fascisme et le fascisme mène à la guerre. Et c'est pour ça que l'antifascisme constitutionnel est aussi une forme de un penchant pacifiste. Donc pour moi, ce qui ressemble le plus avec les tendances fascisantes actuelle, c'est surtout les liens avec la guerre. Et du coup, quand on parle des réarmements et on voit la montée des extrêmes droites, pour moi, c'est deux phénomènes qui vont ensemble. Et je pense qu'un des enseignements de la résistance et plus globalement de la période de la fin de la guerre a été vraiment que la reconnaissance quasiment universelle du fait que de ces liens entre le fascisme et la guerre.
Pour finir, j'ai une question un peu plus personnelle. Tu travailles pour des médias indépendants, tu es journaliste. Tu donnes de la visibilité aux mouvements sociaux. Est-ce que quelque part, tu as le sentiment de poursuivre un peu l'engagement de ton grand-père via la radio ?
J'oserais pas du tout mettre ça dans la même case. Et je ne ressens pas non plus vraiment le besoin de poursuivre quelque chose, entre guillemets. En fait, il y a un truc, c'est que pour moi, c'est le contraire. C'était intéressant parce que mon grand-père était une figure assez distante. Il est mort quand j'avais 11 ans. Donc je ne l'ai pas très bien connu, il n'était pas un grand-père hyper affectionné, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui m'a manqué, mais du coup pour moi c'était intéressant de me plonger un peu dans ses écrits, ses témoignages, tous ces trucs, parce que c'était une forme de un peu aller rencontrer cette personne que je n'avais pas très bien connue. Donc pour moi c'est pas tellement une question de passage de témoin, mais c'était plus être curieux par rapport à une personne qui était quand même proche mais qu'on n'avait pas très bien connue.
La sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
Merci à Filippo Ortona, journaliste et auteur de Una voce nella notte, storia di una radio partigiana, un documentaire sonore en 5 épisodes diffusé sur Radio 3 en avril 2022 et disponible en podcast, mais en italien, sur l'application RaiPlay Sound. Toutes les émissions de Radio Libertà se terminaient avec la berceuse Una voce nella notte, une voix dans la nuit, une voix qui descend des vallées à la plaine, qui incite le peuple à écouter les résistants, qui parlent avec leur cœur et leur foi dans la victoire, comme disent les paroles de cette chanson, composée par Hans Stricker, dit Scat. Je vous propose de l'écouter, interprétée par le Consorzio Suonatori Resistenti, avec Lorenzo Prealoni et Massimo Losito. Pour conclure une nouvelle émission de radio, 80 ans plus tard, et nous rappeler qu'une nouvelle résistance est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Comme on dit en italien, ora e sempre resistenza. Bonne écoute et vive les radios résistantes.
Dalle valli scende al piano, dalle valli al piano. Partigiano, e vi dà la buona notte che vi parla di lassù. Parla una voce nelle vostre case, ed è come se fossimo presenti, col nostro cuore, con la nostra fede, che alla vittoria crede. Scende al piano, dalle valli al piano. Ascoltate il partigiano.